Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Après avoir présenté une définition de la généralité de démultiplication, je voudrais maintenant poser la première pierre de ce qui va nous occuper dans la séance d'aujourd'hui et dans celle de la semaine prochaine, réfléchir aux institutions de la réflexivité. Quelles sont les institutions qui permettent de mettre en œuvre cette réflexivité dont j'ai donné quelques caractéristiques en termes du type de généralité qu'elle poursuivait. Au XIXe siècle, c'est une banalité de le rappeler, l'histoire de la démocratie s'était confondue avec celle de la conquête du suffrage universel et du développement des institutions électorales représentatives. Garant des libertés de tous et expression de la diversité des intérêts et des opinions, les parlements avait alors incarné avec évidence la rupture avec l'absolutisme. Ils n'avaient certes pas tardé à être eux-mêmes vivement critiqués, accusés de faillir à leur mission, de refléter par exemple trop imparfaitement la société, ou d'être confisqués par les partis. Mais ces critiques ne visaient qu'à les réformer ou à les rééquilibrer. Ils restaient bien ainsi au cœur de l'imaginaire démocratique. Les choses ont maintenant changé. Les régimes démocratiques ont considérablement évolué et n'ont plus le caractère unidimensionnel, moniste, qu'ils avaient revêtu depuis leur création. D'autres institutions trônent désormais au panthéon démocratique. Nous avons précédemment souligné la montée en puissance des autorités indépendantes de régulation et de surveillance. C'est aussi le rôle de plus en plus actif des cours constitutionnelles qu'il convient maintenant de prendre en compte. Je vais y consacrer une partie de cette séance. Pendant longtemps, les États-Unis, l'Inde et la République fédérale allemande avaient fait figure d'exception avec leur tradition très active de judicial review. Et sous des formes certes très diverses, c'est désormais sur tous les continents que les cours constitutionnelles se trouvent au cœur de la vie démocratique. On a même parlé à ce propos d'une véritable résurrection contemporaine de la notion de constitution. J'emprunte l'expression à Dominique Rousseau, qui interviendra dans ce séminaire sur le thème justement de constitutionnalisme et démocratie, le mercredi 9 avril. Fait significatif, toutes les nouvelles démocraties d'Europe de l'Est et d'Europe centrale adoptaient au début des années 1990 une organisation des pouvoirs donnant une place importante aux procédures de contrôle de constitutionnalité, alors que le modèle parlementaire britannique faisait chez eux figure de véritable repoussoir. Ces procédures se sont ainsi de fait substituées à la doctrine originelle de la division des pouvoirs pour asseoir la garantie des libertés et conjurer le risque de tyrannie des majorités. Le fait marquant et que ces cours constitutionnels bénéficient globalement d'un fort soutien public, comme l'ont montré d'importantes enquêtes comparatives. Je fais sur ce point notamment référence à la grande étude internationale de Gibson, Caldera et Baird, qui était publiée dans l'American Political Science Review il y a quelques années. Et également aux travaux dont j'ai déjà parlé l'an dernier et dont je reparlerai d'une autre façon plus tard, de Tom Tyler et de Ibing et Thijs Mors. Pour bien comprendre les termes dans lesquels nous pouvons appréhender aujourd'hui ce rôle nouveau des cours constitutionnels, il faut préalablement, même si on le fait très rapidement, rappeler qu'il y a historiquement eu trois modèles du contrôle de constitutionnalité. On peut distinguer du sein de ces institutions contre-majoritaires, la formule est de Baikal, j'y reviendrai, plusieurs approches, notamment d'abord ce qu'on pourrait appeler une approche libérale, une approche positiviste. La conception libérale de la Constitution est classiquement illustrée par les positions d'un Benjamin Constant ou d'un Sieyès, le Sieyès de la période post-thermidorienne en tout cas, bien sûr. Lorsque ce dernier présente en l'an 3 son fameux projet de jury constitutionnaire, il le conçoit, je cite son expression, comme un frein salutaire qui a pour objet de contenir chaque action dans les bornes de sa procuration spéciale. Sieyès pense là explicitement en termes de limite de la souveraineté. Il est d'ailleurs frappant de voir qu'un manuscrit de cette période, qui a d'abord été publié par Pasquale Pasquino et repris dans la publication des manuscrits de Sieyès que l'on trouve aux éditions Champion par Christine Fauré, ait porté ce titre de « Limite de la souveraineté ». Il s'agit bien pour Sieyès de borner les initiatives que le législateur prend à la simple majorité par la volonté unanime que la Constitution est censée exprimer. Et quelques années plus tard, c'est également dans les mêmes termes de frein que Benjamin Constant esquisse le rôle de ce qu'il appellera un pouvoir préservateur, considérant que toute Constitution doit être comprise pour cela comme un acte de défiance. Et la Constitution peut être définie chez eux de cette façon comme une sorte de réducteur de démocratie. Cette approche se distingue bien sûr de celle d'un Kelsen, le père de la conception moderne du contrôle de constitutionnalité. La juridiction constitutionnelle est pour Kelsen un simple législateur négatif, selon sa formule. Mais il ne resitue pas tant cette fonction dans une économie du libéralisme et de la démocratie que dans une architecture normative, hiérarchisée. Et le but du contrôle de constitutionnalité a d'abord chez lui un sens d'organisation de la production normative. Et c'est d'ailleurs significativement à partir de l'exemple de son pays, l'Autriche, un pays de type fédéral, qu'il a développé sa théorie. Le problème pratique à régler était pour lui strictement d'ordre procédural. Il s'agissait de déterminer clairement la répartition des compétences entre confédération et province. Et pour l'auteur de la théorie pure du droit, le juge constitutionnel était dans cette mesure avant tout, pour reprendre une formule de Vedel et de Favoreux, un aiguilleur. La conception démocratique réflexive du contrôle de constitutionnalité se distingue de ces deux premiers modèles dominants. Elle assigne en effet aussi comme tâche à ce contrôle d'accroître indirectement le pouvoir citoyen sur les institutions. En Amérique, c'est Jefferson qui a développé le premier cette conception. Alors que Madison, en bon libéral, s'inquiétait d'abord des risques de débordement des majorités populaires, Jefferson considérait, lui, que le principal problème était non pas la tyrannie des majorités, mais la tyrannie des législatures. Et dans cette perspective, la Judicial Review était considérée par lui comme participant de l'essence d'un pouvoir populaire de résistance. Et Jefferson appelait dans la même veine à l'adoption d'une déclaration des droits parce qu'il la comprenait, selon sa propre formule, comme un moyen de garantir le peuple contre le gouvernement fédéral. Si le risque d'oppression est d'abord dans le gouvernement, ce qui limite ce dernier est donc un moyen de renforcer le pouvoir des citoyens. On a un très bon témoignage, un très bon exposé de cette doctrine de Jefferson dans tout un ensemble de lettres qu'il a échangées sur la longue durée avec Madison. Des lettres qui sont de la période de la rédaction de la Constitution jusqu'à une dizaine d'années plus tard. Dans ce cas-là, ce qui limite le gouvernement est un moyen de renforcer le pouvoir des citoyens. Et la règle de droit est appréhendée dans ce cadre comme équivalent à un mécanisme de démocratie directe. Ce thème a été développé dans un célèbre article du Yale Journal de Frank Michelman, où il parle de la self-rule as law rule. Dans la France du printemps 1793, de nombreux projets avait également envisagé dans ces termes l'institution d'un jury national. Cette période du printemps 1793 est d'ailleurs, pour moi, la période la plus intéressante du point de vue non pas de la philosophie politique constitutionnelle, mais de l'ingénierie constitutionnelle. C'est en effet la période de la Révolution française dans laquelle il y a un ensemble de propositions les plus intéressantes et les plus imaginatives qui, hélas, n'ont jamais été rassemblées, alors que les débats de l'automne 89, les débats, je pourrais dire, de philosophie constitutionnelle, sont généralement beaucoup mieux connus. Loin de brider le pouvoir populaire, l'idée d'un jury national, telle qu'elle est formulée par celui qui va succéder à Condorcet dans la rédaction du projet constitutionnel, Hérault de Séchelles, était définie, je cite Hérault de Séchelles en une formule qu'il a fait reproduite dans son projet de constitution, comme un moyen de garantir le peuple de l'oppression du corps législatif. C'est-à-dire donc là qu'un artefact constitutionnel a cette définition démocratique. Et dans cette conception démocratique du contrôle de constitutionnalité, le pouvoir social se présente d'une certaine façon sous la forme d'une tenaille qui enserre les gouvernants. D'un côté, le pouvoir social nomme les gouvernants à travers le pouvoir électoral direct et il les contrôle indirectement par le biais des juges constitutionnels appartenant à ce jury. Les deux moyens convergent ainsi pour rendre le pouvoir plus dépendant des citoyens et l'indépendance de ces juges constitutionnels vis-à-vis de ce pouvoir particulier équivaut donc, dans ce cas, à ce qu'il soit dépendant de tous. C'est toute une argumentation que l'on trouve parfaitement développée, disons, dans les débats de mars à mai 1793 en France. Ce projet d'un jury ne sera pas retenu à cette époque, tant on pensait justement qu'il y avait une méthode encore supérieure pour garantir en quelque sorte les citoyens contre les abus éventuels du gouvernement, et ce moyen supérieur, c'était l'insurrection. Et on avait même été jusqu'à dire à ce moment-là que si cela était possible, l'idéal aurait été de transformer l'insurrection en une institution. Ben, d'une certaine façon, c'est une formule célèbre de l'époque. Ben, d'une certaine façon, c'est ce que visaient à faire, sous un mode plus modeste et plus organisé, les différents projets qui étaient discutés à ce moment-là sous des dénominations très, très diverses. Ces anciennes appréhensions de Jefferson ou du printemps 1793 refont surface aujourd'hui et elles retrouvent une nouvelle actualité pour nous. Et plusieurs auteurs ont récemment recreusé ce sillon. C'est notamment le cas de celui qui est actuellement le provost de l'université de Princeton, Christopher S. Gruber, dont l'un des ouvrages est significativement intitulé « Constitutional Self-Government », donc la Constitution comme instrument de self-government. Aux États-Unis, les travaux de Steve Holmes ont en partie participé d'une démarche analogue, ainsi que ceux de Larry Kramer, dans un bouquin très discuté qui s'appelle « The People Themselves, Popular Constitutionalism and Judicial Review », qui était publié en 2004. Le livre d'Ace Gruber vient de faire l'objet d'une réédition en 2007, d'une nouvelle édition à Harvard University Press. Et en France, c'est un Dominique Rousseau, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, qui a emprunté un chemin parallèle avec son idée de démocratie continue. Les cours constitutionnelles, comme tiers réflexifs, ont d'abord une fonction de représentation sociale et politique. Elles font, au premier chef, droit à l'existence du peuple-principe dont la figure n'a cessé de prendre de l'importance dans le nouveau monde de la singularité que nous avons précédemment décrit. Cette révolution sociologique a en effet entraîné une transformation des rapports entre droit et démocratie, et donc contrôle de constitutionnalité et principe majoritaire. Il devient ainsi plus important que par le passé de faire valoir la pleine existence de ce peuple-principe dont le peuple sensible prend de plus en plus le visage. C'est une tâche qui revient donc tout particulièrement à ces cours parce qu'elles ont pour fonction essentielle de rappeler que le souverain ne se réduit pas à son expression électorale majoritaire et qu'il en déborde toujours la définition. Elles rendent tangible cet écart, obligent à le prendre en compte et conduisent de ce fait à instaurer une confrontation permanente entre les différents peuples démocratiques, celui des urnes et celui des principes tout particulièrement. Loin de se contenter de juger et de censurer, elle participe de cette façon à l'enrichissement de la délibération démocratique dans ce qui fait son cœur, la détermination des éléments constituants l'être ensemble. Il s'agit donc là d'une forme de représentation d'ordre moral ou fonctionnel qui est structurellement distincte de l'expression immédiate des volontés que cherche à exprimer la représentation électorale. On ne peut donc les considérer comme antagoniques, même si elles restent mécaniquement hiérarchisées, l'élection érigeant toujours un nécessaire pouvoir du dernier mot dans les sociétés démocratiques. Une telle forme adjacente, pourrait-on dire, de représentation, souligne à sa façon les paradoxes, les inaccomplissements de la représentation électorale. Elle contribue aussi à en surmonter les tensions inhérentes. La distinction des différents peuples, à laquelle nous avons procédé tout à l'heure, doit aussi être prolongée en étant déclinée en termes temporels. Le peuple suffrage est par exemple toujours appréhendé dans un registre de l'immédiateté, alors que le peuple principe s'inscrit en revanche dans le temps long. Il s'identifie pour cela naturellement avec l'idée de nation. C'est un point que Sieyès avait fortement souligné. Je le cite. « Les véritables rapports d'une constitution politique, dit Sieyès, sont avec la nation qui reste plutôt qu'avec telle génération qui passe. » Avec les besoins de la nature humaine, communs à tous, plutôt qu'avec des différences individuelles. Figure abstraite de la souveraineté, la nation ne devient en effet sensible qu'à travers la mise en valeur et la pratique des principes qui la fondent. Elle a donc besoin d'un organe pour la représenter, on peut reprendre là l'expression de Sieyès, et c'est à cette tâche que contribue aussi aujourd'hui une Cour constitutionnelle, alors qu'elle était conçue, cette tâche, pendant la période révolutionnaire, comme l'œuvre essentielle du Parlement, comme l'a montré et démontré l'œuvre de Carré de Malberg. Ces cours, en s'attachant tout particulièrement aux droits et aux principes fondamentaux, ont un rôle d'activation de la mémoire collective. On peut même considérer que leur vigilance a dans cette mesure une fonction d'ordre représentatif. C'est une représentation de mémoire qui consiste à entretenir et à faire vivre les valeurs fondamentales, à donner un sens actif à leur héritage. Les termes de rédaction de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 manifestent tout à fait cette dimension. Voilà en effet ce qu'on peut y lire. L'oubli où le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. L'oubli et le mépris. Donc, les droits de l'homme sont liés à une activation de leur mémoire en permanence. Et il faut donc que la déclaration, je continue à la citer, soit constamment présente aux membres du corps social pour qu'elle leur rappelle sans cesse leurs devoirs et leurs droits. Donc, elle n'est pas simplement un texte. Elle est un texte et un ensemble de principes, mais insérés dans une activité sociale, celle de la mémoire, celle de la vigilance, celle de l'activation. La vigilance et le travail de mémoire ont ainsi alors été explicitement définis comme des fonctions politiques spécifiques. Les cours constitutionnelles contribuent à remplir ces tâches et à rendre présents une représentation de présence en permanence, les principes organisateurs de cette vie sociale. C'est aussi la fonction plus large du droit, dont divers tiers-pouvoirs, j'y reviendrai, sont des agents directs ou indirects. Tenir le rôle du gardien des promesses, une collectivité s'est faite à elle-même. Elles garantissent de cette façon l'identité de la démocratie comme un établissement dans la durée. La nécessité d'une pluralisation des temporalités de la démocratie n'a fait que s'accroître dans les sociétés contemporaines, parce qu'elles sont toujours plus menacées par la dictature du court terme. et la fonction de représentation des principes y trouvent du même coup une importance renforcée. D'où la légitimité accrue de ces pouvoirs vis-à-vis des gouvernants directement élus. Au lieu de les considérer comme antagoniques ou même plus positivement comme des puissances heureusement appelées à se contenir mutuellement, il est donc nécessaire de les penser dans un cadre unifié. Le droit constitutionnel relève d'une temporalité longue de la démocratie, alors que les décisions du pouvoir exécutif ou les formulations du législateur s'inscrivent dans des cycles plus courts. C'est ce qui explique la décision qui est parfois prise de constitutionnaliser des normes auparavant simplement législatives. C'est ce qui s'est passé par exemple en France en 2007, lorsqu'a été adoptée une révision de la Constitution introduisant dans le texte l'interdiction de la peine capitale. Abolie par la loi en 1981, la peine capitale était pourtant formellement bannie aussi par la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée en 1986. D'un point de vue strictement formel, la nécessité de constitutionnaliser la mesure pouvait donc être discutée. Cette insertion avait donc d'autres motifs, d'ordre symbolique, pourrait-on dire. Au lieu de considérer les parlements et les cours constitutionnels comme des organes concurrents ou même comme des puissances qui se contiendraient, je l'ai dit, il est ainsi possible de les resituer dans le cadre unifié d'une organisation pluraliste des temporalités. Organisation qui est elle-même indissociable de sa propre histoire, car il n'y a dans les faits aucune institution, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui puisse être comprise de façon autonome, comme si elle existait indépendamment des autres et surgit du néant. Les diverses institutions ne prennent sens que resituées dans leur système d'interaction. On ne saurait également pour cela les appréhender en dehors des conflits entre les différents types de légitimité qui sont associés à chaque registre de temporalité. Conflits qui renvoient toujours à des controverses sur la fondation démocratique. Le cadre constitutionnel a pour fonction de laisser l'avenir ouvert, de ne pas figer un rapport de force entre une majorité et une minorité. C'est un principe d'égalité de tous les citoyens devant l'avenir que doit plutôt dériver la légitimité constitutionnelle. Nier cette limitation du pouvoir des majorités reviendra en effet à occulter leur nature et à les parer de fait des vertus de l'unanimité. Les cours constitutionnels sont pour cela au premier chef les grands témoins de ce que j'ai appelé la fiction démocratique. Elles ont pour tâche de rappeler en permanence ce caractère de fiction, de rappeler la faille originelle sur laquelle reposent les régimes issus du suffrage universel. C'est de cette façon que ces institutions peuvent être les garants du maintien dans le temps du processus démocratique. La réflexivité est là identifiée à une entreprise de lucidité, un appel, un rappel des réalités. Une telle approche intertemporelle de la démocratie, comprise comme une expérience vivante et conflictuelle, conduit aussi à reconsidérer la question de la précontrainte, du pré-engagement, on dit en anglais du pre-commitment, que constituerait un texte constitutionnel. Et ici, il faut ici brièvement rappeler l'histoire très longue de cette question pour bien en percevoir les enjeux contemporains. Cette question de la précontrainte avait été au centre des préoccupations des constituants américains et français. L'acte fondateur de liberté, qui était l'adoption d'une constitution, ne devait en effet pas se muer pour eux en une contrainte inexorable pour les générations à venir. D'où la place centrale qu'avait occupée dans les débats français de 1791 et de 1793 la question des révisions, des conditions de révision de la Constitution. Et autour du cercle social, des auteurs comme Lanthenat, comme Brissot et bien sûr Condorcet étaient parmi ceux qui avaient le plus écrit et théorisé sur cette question. Lorsqu'il traite le sujet dans sa brochure d'avril 1791 des conventions nationales, Condorcet développe une théorie générationnelle du pacte social. Si la majorité vaut pour lui, comme pour Sieyès, instrumentalement pour unanimité, cette convention, dit-il, perd progressivement de sa consistance au fur et à mesure que de nouveaux membres entrent dans la société. Arrive en effet un moment, dit Condorcet, où la majorité initiale a démographiquement fondu. À cet horizon, dit-il, la loi cesse d'être légitime. La solution, elle est pour lui d'envisager tous les 20 ans une révision de la Constitution de telle sorte que celle-ci ait été adoptée par ceux qui y sont effectivement soumis. Une génération, résume-t-il, n'a pas le droit d'assujettir à ces lois les générations futures. L'argument, au même moment, est aussi martelé en Amérique. C'est Thomas Paine qui mettra cette idée au cœur de son plaidoyer pour les droits de l'homme. Il est impossible, écrit-il, dans son ouvrage des droits de l'homme de 1791 aussi, il est impossible qu'il existe dans aucun temps ou dans aucun pays un parlement qui ait le droit de lier la postérité jusqu'à la consommation des siècles. Chaque siècle, chaque génération doit avoir la même liberté d'agir, dans tous les cas, que les siècles et les générations qui l'ont précédé. Il est donc en guerre contre toutes les théories antérieures du consentement tacite des populations à l'ordre existant. Et il proclame qu'il n'existe de consentement que celui des vivants. Dans une lettre à Madison qu'il écrit dans le Paris révolutionnaire de l'automne 1789, Jefferson utilise encore des mots identiques pour défendre le droit de chaque génération à choisir les formes de gouvernement qui lui conviennent. De telle sorte que chaque génération puisse être comprise comme une nation indépendante. C'est une des phrases les plus célèbres de Jefferson, qui se trouve, qui était les plus commentées, qui a donné lieu à publication de beaucoup d'articles et beaucoup d'ouvrages. La terre n'appartient qu'aux vivants et non aux morts. Ces appréhensions révolutionnaires du temps politique ont été marquées par la nécessité de rompre avec un ancien monde qui avait érigé le poids de la tradition en impératif catégorique. Il fallait alors, de fait, affirmer haut et fort une capacité permanente, disons au moins générationnelle, d'invention de l'avenir, de telle sorte que les libres choix d'une génération ne se retournent pas pour les survivants, pour les suivantes, en une inexorable contrainte. La démocratie n'a ainsi pu s'imposer qu'en se revendiquant comme une puissance du présent. Il est resté quelque chose, cette obsession, dans toute une critique diffuse du constitutionnalisme, comme si la volonté générale risquait intrinsèquement en lui de finir par être confisquée. Mais il est, en revanche, nécessaire de redonner aujourd'hui une consistance temporelle aux démocraties pour en renforcer le fondement. Elles sont en effet aujourd'hui beaucoup plus menacées par le culte du présentisme que par l'enfermement dans des règles étouffantes. Une plus grande capacité de la société à s'autogouverner implique ainsi au premier chef de repenser les temporalités du régime démocratique. Les cours qui jouent un rôle en la matière ont une fonction à cet égard proprement réfléchissante, qui contribue à ce que se forme une volonté commune dans ce qui se distingue d'une simple décision. Elles organisent en effet structurellement une certaine tension entre les différentes temporalités du droit, et elles rappellent de cette façon les termes de la construction d'une histoire. À la manière de ces instruments d'optique qui créent du relief en rapprochant deux images, elles permettent de donner une véritable profondeur de champ à la vie démocratique. Elles jouent le rôle d'un tiers actif producteur de sens. Les cours constitutionnels participent ou pourraient participer de cette façon de l'extension et de l'approfondissement du système représentatif en tant que modalité proprement positive d'organisation de la démocratie. Elles contribuent au elle contribue au développement d'une démultiplication des modes de représentation qui est la seule clé d'une expression plus fidèle de la volonté générale. Cette démultiplication permet en effet de soumettre in fine plus efficacement les pouvoirs au contrôle des citoyens en pluralisant le visage de ce dernier. Cela conduit à envisager dans des termes neufs la question des rapports entre démocratie directe et démocratie représentative. Dans le cadre d'une représentation plurielle, elle cesse en effet de former un jeu à somme nulle. On peut même dire que la façon la plus approchée de réaliser les objectifs d'une démocratie directe consiste, dans cette perspective, à mettre en place un système de représentation généralisée. Ce à quoi, même si c'est modestement, participent les cours constitutionnelles. Elles permettent pour cela, simultanément, de corriger les dérives du système représentatif en invitant les représentants de la majorité à prendre en compte les énoncés précédents de la volonté générale et d'en développer la fonctionnalité démocratique de cette représentation. Les cours constitutionnelles contribuent encore d'une troisième façon, ou peuvent contribuer encore d'une troisième façon à la vitalité démocratique, en permettant d'enrichir la qualité de la délibération politique. C'est particulièrement notable dans les cas où, comme en France, le contrôle de constitutionnalité des lois s'opère ex ante. La réforme de 1974, on le sait, a donné dans l'Hexagone une minorité parlementaire qualifiée, 60 députés ou sénateurs, la possibilité de faire examiner par le Conseil la conformité d'une loi ordinaire. Et les saisines ont immédiatement décuplé dans ce cadre. Le Conseil est devenu de cette façon une arme essentielle pour l'opposition, en donnant à la minorité parlementaire l'occasion de provoquer un nouveau débat. S'il a joué son rôle, selon la formule célèbre, de répartiteur du flux normatif entre les diverses voies plus ou moins contraignantes de la création du droit, il a aussi, plus profondément encore, transformé de cette façon les rapports entre majorité et opposition. Et en offrant le moyen de les rééquilibrer, il a changé la nature même de la démocratie majoritaire, permettant au débat de se dérouler dans deux enceintes successives avant qu'il ne soit définitivement tranché. La discussion parlementaire et le contrôle de constitutionnalité sont devenus de la sorte deux moments et deux procédures complémentaires de l'expression de la volonté générale. La formulation par le Conseil en 1985 de ce qu'on appelle un obiter dictum, c'est-à-dire une formule en passant qui est de la plume de Vedel, selon lequel la loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution, a témoigné du basculement qui s'était de la sorte accompli. C'était en effet rompre ouvertement avec la vision précédente, strictement parlementaire, selon laquelle la loi seule pouvait être considérée comme l'expression de la volonté générale. Si cette notion avait parfois été vivement critiquée, voire Karel Malberg, elle n'en avait pas moins constitué l'horizon intellectuel dans lequel s'était historiquement inscrit la démocratie française. Témoigner de sa présence, de sa prégnance, le fait qu'un député socialiste pouvait encore, en 1981, apostropher l'opposition en disant « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire », selon la formule connue. L'énoncé de 1985 a ainsi traduit un profond revirement dans l'appréhension française du fait démocratique. Les voix les plus décidément hostiles à l'idée d'un contrôle de constitutionnalité s'étant, du même coup, faites plus discrètes. Et les périodes de cohabitation qui se sont succédées à partir du milieu des années 1980 ont d'une certaine façon structurellement contribué à cette mutation en banalisant les tentatives de corriger sur le terrain constitutionnel les conséquences des défaites électorales. Le contrôle de constitutionnalité conduit dans tous les cas à faire retour sur les débats politiques essentiels en y introduisant des formes d'argumentation nouvelles. À la discussion proprement politique, fortement conditionnée par des éléments d'opportunité ou des considérations idéologiques. Il substitue une intervention plus objective, contrainte par les méthodes du raisonnement juridique. Alterne ainsi, grâce à lui, deux façons de comprendre et de construire la volonté générale dans les démocraties. D'un côté, une logique du nombre, faisant prévaloir l'opinion immédiatement dominante. De l'autre côté, une logique du raisonnement, introduisant une contrainte opposable de justification. La diversification des temporalités et des figures du social se prolonge sur ce mode, donc, par une dualisation des styles d'argumentation. Chacun de ces styles d'argumentation étant associé à une définition propre de la généralité sociale. La réflexivité induite par les procédures de la justice constitutionnelle conduit ainsi à démultiplier les modes, les lieux et les temps de la délibération publique. Elle invite à reconsidérer les choses sous un autre angle. Elle introduit de la sorte l'équivalent d'une forme de délai de réflexion. Et s'organise dans ces conditions une scène délibérative dont le caractère composite et réflexif permet d'approcher les objectifs qu'il serait difficile d'atteindre en organisant tous les débats publics politiques conformément aux assumptions d'une pure théorie de la délibération. Les réquisites en termes de niveau d'information, de dispositif de confrontation ou de maturation de la réflexion qu'implique une vraie délibération sont en effet fort exigeants. Et on ne peut que difficilement envisager qu'il régisse à court terme la vie publique et qu'il se substitue facilement à la rusticité des affrontements partisans et à la cacophonie de l'expression des opinions. En témoigne d'ailleurs le fait que les expériences novatrices en matière de délibération sont toutes mises en œuvre dans le cadre de petits groupes, qu'il s'agisse de jurys citoyens, de conférences de consensus, de forums hybrides, qui sont organisés en outre pour inscrire leur démarche dans un temps relativement long. Si le souci de voir s'améliorer le caractère délibératif, que je pourrais dire général de la démocratie, doit rester constant, cela ne doit pas masquer le fait que c'est sur un mode représentatif que cette qualité progresse aujourd'hui de fait essentiellement, dans la confrontation des institutions politiques et juridiques sous les yeux du public. Le propre de la réflexivité délibérative est enfin de réduire l'écart entre la démocratie définie comme une procédure et la démocratie définie comme une forme de société, un contenu, définition substantielle de la démocratie. Dans l'échange entre le politique et le juridique, les deux dimensions tendent en effet à s'interpénétrer davantage. Le sens de l'affrontement entre majorité et minorité change aussi de nature dans cette perspective. Il ne peut plus simplement être compris de façon statique, comme le face-à-face de deux camps constitués seulement susceptibles d'échanger leur position à l'issue de chaque épreuve électorale. Il participe ainsi d'une dialectique constructive qui contraint la majorité à intégrer d'autres raisonnements et d'autres arguments en se trouvant simultanément confronté aux assauts de la minorité et à la discipline de la justice constitutionnelle. Les trois formes de réflexivité que mettent en œuvre les cours constitutionnels contribuent ainsi à donner plus de relief à la vie démocratique. Elles lui donnent un caractère multidimensionnel qui permet d'en corriger certaines défaillances et d'en réduire les tensions structurantes. Mais ces institutions ne sont pas les seules institutions de la réflexivité. Si les cours constitutionnels en incarne la dimension la plus commentée, la plus visible, il y a aussi beaucoup d'autres modalités plus diffuses de mise en jeu de cette fonction de réflexivité. C'est aussi à quoi concourent nombre d'organisations de la société civile, quand elles rendent sensible l'écart de la réalité aux principes fondateurs de la démocratie. Il y a en outre de multiples expressions de ce qu'on pourrait appeler une représentation de connaissances, d'ordre plus scientifique, qui joue un rôle également très important. L'œuvre critique des sciences sociales y participe d'ailleurs au premier chef. Et la théorie même de la démocratie joue elle-même un rôle clé pour rendre plus difficile aux gouvernants de se draper sans discussion dans les plis de leur seule légitimité électorale. Le fait majeur qu'il faut considérer est que l'impératif de réflexivité s'accroît de plus en plus dans les démocraties du XXIe siècle. D'abord, en raison du changement d'horizon de l'action humaine, mais aussi du fait de l'accroissement de l'incertitude sur les conditions d'une bonne décision publique. Alors que la fonction démocratique des cours constitutionnels commence à peine à être explicitée et discutée, il est ainsi simultanément nécessaire de ne pas en rester à ce seul niveau de la discussion pour envisager de nouveaux moyens supplémentaires d'exercice de la réflexivité en politique. La question des générations futures, par exemple, prend une importance accrue du fait de l'épuisement de certaines ressources naturelles ou de l'évaluation des variables démographiques. La notion de peuple transgénérationnel que l'on peut en inférer n'a en soi rien de très neuf. C'est un grand topos de la fin du XIXe siècle. Il y avait alors fréquemment dans ce grand topos au XIXe siècle des relents antidémocratiques chez tous les penseurs traditionnalistes qui appelaient à limiter l'expression de la volonté populaire immédiate au nom du respect qui était dû aux ancêtres et spécialement à ceux qui étaient morts au combat pour maintenir la liberté des vivants. C'est la formule célèbre de Barrès. « Je ne peux vivre que selon mes morts. Eux et ma terre me commandent mon activité. » Même si d'autres voix plus minoritaires, comme celle de Léon Bourgeois ou d'Alfred Fouillé, se faisaient entendre à cette période pour appeler à penser en termes, je cite Fouillé, de quasi-contrat, les rapports entre générations. Mais aujourd'hui, tout nous incite à approfondir considérablement cette direction. Cela signifie que la notion de peuple doit être élargie et la démultiplication dont nous avons évoqué, être là mobilisés. Mais cela implique même plus radicalement que s'estompe la distinction entre les notions de peuple et d'espèce. Il ne s'agit pas seulement dans ce cas de compliquer la définition d'un peuple donné, en distinguant peuple suffrage et peuple principe, comme on l'a fait tout à l'heure par exemple, mais d'en élargir le champ. Et dans ce cas, c'est très classiquement dans les termes d'une représentation des intérêts que se pose le problème de sa prise en compte. Mais comment représenter des absents, des êtres à venir, surtout si l'on réalise que leurs problèmes se confondent presque avec ceux du milieu naturel dans lequel ils évolueront. L'idée a été émise dans ce sens, d'étendre la notion d'institution représentative et d'aller jusqu'à mettre en place un parlement des objets. Bruno Latour a ainsi audacieusement parlé, c'est lui qui a inventé cette formule, de nouveau bicaméralisme. L'usage de la notion de représentation, me semble-t-il, ne peut cependant aucunement renvoyer, dans ce cas, à l'idée d'un mandat ou d'une délégation. Il ne peut pas être question non plus d'une représentation figuration de ce qui n'existe pas encore. Si l'inscription dans le futur se réduisait d'une autre façon à forger une sorte d'improbable perpétuité démocratique, la représentation du monde présent pourrait d'un autre côté valoir pour l'avenir. Mais cela ne peut être le cas, ce serait une contradiction dans les termes. Ce n'est donc que sur le mode d'une connaissance que la nature et les humains du futur peuvent être représentés. Être représentés, c'est-à-dire participer aux discussions du présent. Il n'y a donc pour cela pas de député possible du futur, il n'y a en la matière que des experts. Pour être efficace, une telle participation ne peut d'ailleurs se limiter au travail de production de ces experts. Elle doit prendre en compte les incertitudes qui entourent la formulation même de leur expertise, on le voit chaque jour. Elle implique donc que ces expertises sortent des lieux clos de leur production. D'où la nécessité de multiplier ce qu'on a appelé ces forums hybrides qui réunissent savants et citoyens, dans les conditions limitées que j'ai rapidement mentionnées, pour débattre des questions essentielles. D'où l'utilité aussi de mettre sur pied de nouveaux types de conseils consultatifs, la formule a été employée plusieurs fois, d'Académie du futur, qui pourraient en permanence nourrir et questionner à la fois la parole des élus immédiats du peuple. C'est ainsi d'une confrontation organisée des gouvernants avec la compréhension contradictoire du monde que se nourrira également de plus en plus la démocratie. Elle se rapprochera sur ce mode de l'idéal d'une institution de la cité indissociable d'une meilleure connaissance de soi. La réflexivité juridique des cours constitutionnelles se prolongera de cette façon selon de très nombreuses et nouvelles modalités, par la mise en place d'institutions sociales et intellectuelles permettant notamment à des formes de réflexivité cognitive de se déployer toujours plus dans le champ politique. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'auteurs qui ont commencé à beaucoup publier sur ces questions-là. Un des premiers, l'auteur du célèbre livre de philosophie politique, Le principe responsabilité, Hans Jonas, avait déjà tiré les conséquences institutionnelles de son avertissement à considérer autrement le futur et les problèmes qui le posaient. Je vois dans un article publié très récemment par un professeur de Harvard, Dennis Thompson, où il parle aussi des nouvelles conditions de la représentation temporelle. Il reprend d'ailleurs de façon intéressante les vieilles formules du tribunat pour la postérité, de commissions indépendantes sur les impacts sur le futur, des instituts de balance démocratique, des fonds de confiance de l'avenir, tout un ensemble d'institutions peuvent être présentées et peuvent être discutées. Il me semble en tout cas nécessaire de montrer que si aujourd'hui la discussion se limite pour des raisons techniques, parce que ces institutions se sont considérablement développées depuis quelques décennies au cours constitutionnel, la question de la réflexivité démocratique dans l'avenir se développera aussi donc selon des modalités très, très différentes. En même temps que ces modalités seront différentes, il faut bien se garder d'avoir une approche de cette question des cours constitutionnels ou des institutions réflexives qui fasse perdre de vue ce que nous avons mentionné dans les premières séances, à savoir la nécessité de comprendre de façon dualiste les démocraties. Les démocraties étant à la fois des institutions définies par des institutions qui ont pour fonction de trancher, de faire des choix à partir des divisions qui existent dans la société, d'entériner un certain nombre de partis pris, et de l'autre côté, mais de l'autre côté seulement, de trouver des modalités qui permettent de mettre en place des institutions organisant des points de vue plus consensuels, des points de vue de l'unanimité. Si des cours constitutionnels, comme d'autres institutions de réflexivité, ont pour fonction de pallier les déficiences de la démocratie majoritaire, elles ne doivent pas, donc, d'une certaine façon, se substituer non plus à ces démocraties majoritaires. Elles doivent être dans une situation d'interaction avec elles. Le champ constitutionnel impartial et le champ législatif partisan doivent toujours rester comme deux puissances aussi valides dans le face-à-face duquel né la démocratie. Mais en même temps, il est frappant de voir aujourd'hui qu'il y a une tendance très générale, tant politiquement qu'intellectuellement, à considérer qu'il doit y avoir dans les sociétés contemporaines une préférence des règles pour la discrétion. Ce thème des règles pour la discrétion, les règles étant préférables à la discrétion, est un grand thème de la théorie économique, puisqu'il y a 2 ans, le prix Nobel d'économie a été attribué à Kidland et à Prescott pour avoir publié un article qui portait justement sur ce titre-là, « Rule versus Discretion », pour montrer les conditions dans lesquelles on pouvait considérer qu'il y avait un avantage économique à la règle stable par rapport à la décision politique. Ce thème était très discuté en économie et bien sûr, il est au centre de toutes les discussions sur la question du rôle de la Constitution. Et cette discussion sur les règles par rapport à la discrétion a notamment été développée par un autre prix Nobel d'économie qui en a tiré les conséquences les plus radicales, à savoir Buchanan. Buchanan, très lié à Hayek, a développé cette idée selon laquelle il faudrait aller au bout de l'idée constitutionnelle et que la véritable démocratie de la généralité serait une démocratie, justement, d'une unanimité qui peut seule être garantie par les règles. Reprenant donc un raisonnement proche de celui de la décision sous voile d'ignorance de Rawls, Buchanan a développé cette idée d'une supériorité radicale d'un gouvernement par les règles par rapport à un gouvernement discrétionnaire. Supériorité qui s'alimente directement à la théorie de l'information de Hayek, en disant puisque il est impossible de pouvoir maîtriser l'ensemble des informations qui seraient nécessaires pour avoir une décision véritablement rationnelle, la seule façon de pallier ces insuffisances informationnelles, c'est une règle automatique, avec des forces de déclenchement, et vous le savez, c'est ce qui a développé dans les années 1970 tout le début du développement du constitutionnalisme économique aux États-Unis, qui a joué un rôle très, très important. Et in fine, dit Buchanan, eh bien, ce qui doit remplacer, c'est la règle, mais pas n'importe quelle règle. C'est la règle, la seule règle qui soit absolument sans maître. La seule règle qui soit écrite, en quelque sorte, automatiquement. La seule règle qui puisse être auto-fondée. Et quelle est la seule règle auto-fondée ? Ben, c'est la règle qui provient de l'évolution elle-même humaine. C'est la règle qui est liée à cette façon qu'a eu l'histoire humaine de dégager peu à peu les mécanismes considérés comme les plus efficaces. Et bien sûr, pour Buchanan, comme pour Hayek, puisque ça reprend sur ce plan véritablement la théorie du marché de Hayek, c'est de dire que donc seule la règle de marché est une règle auto-fondée. Toutes les autres règles sont des règles socialement instituées et qui donc peuvent avoir une sorte de déficit informationnel consubstantiel à leur édiction. Alors bien sûr, cette vision peut être tout à fait discutée et critiquée, mais elle est très intéressante pour la raison suivante. C'est qu'elle elle radicalise à un certain point une certaine vision du rôle de la Constitution. Elle radicalise d'une certaine façon une certaine vision du rôle de la règle. Et elle repose là, de façon absolue, sur l'éradication de la politique définie justement comme le rapport à la division sociale, avec la prétention d'avoir trouvé une règle contre laquelle personne ne pourrait se révolter parce que nul ne l'aurait écrite. C'était au fond la grande thèse d'Hayek, c'est de dire que ce qu'il y a de sublime dans le marché, c'est qu'il est une grande école de la résignation. Personne ne peut se révolter contre lui parce que personne ne peut assigner un responsable à son écriture. Voilà, ben nous continuerons la semaine prochaine avec peut-être des vues plus optimistes.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.